Le conseil départemental et Radio Alpa vous présente Sport en Sarthe.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Sport en Sarthe, une émission en partenariat avec le conseil départemental de la Sarthe qui met en avant la pratique du sport sous toutes ses formes dans le département. Et aujourd'hui, on va d'abord parler karaté. Le Samouraï 2000 a récolté une belle moisson de médailles lors des championnats de ligue le week-end du 8 et 9 février. Cependant, c'est une lourde déception pour Eva Livet qui a été éliminée au premier tour des championnats d'Europe. Retour donc sur ces deux événements avec Dimitri Degnaud, coordinateur adjoint au Samouraï 2000, également entraîneur d'Eva Livet. Puis nous serons avec Théo Langlais. Ce jeune homme s'est découvert une étonnante vocation, celui de speaker sportif. Il nous racontera ses premières expériences, pourquoi ce métier le passionne et ce qu'il envisage à l'avenir. Mais tout de suite, on commence avec les récents événements du Samouraï 2000, le club d'arts martiaux du Mans.
Radio Alpa, l'alternative.
Une bonne et une mauvaise nouvelle pour le club d'arts martiaux du Samouraï 2000. La karatéka junior Eva Livet a été éliminée dès le premier tour lors des championnats d'Europe le 8 février dernier, malgré un entraînement intensif. Mais en parallèle, les sportifs du Samouraï 2000 ont récolté de nombreuses médailles lors des championnats de ligue. Alors revenons ensemble sur ces deux événements avec Dimitri Degnaud. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes coordinateur adjoint au Samouraï 2000 et vous êtes également l'entraîneur d'Eva Livet. Alors expliquez-nous qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, le 8 février, où elle a été éliminée au combat dès le premier tour.
Eh bien, Eva a mené son combat 2-0. Voilà, elle avait quand même réussi à marquer 2 points. Et puis, malheureusement, elle est sortie plusieurs fois du tatami avec une erreur un peu stratégique, on va dire. Et elle a fait une sortie de trop, donc elle a été disqualifiée alors qu'elle menait 2-0. Donc, c'est une erreur, pas de débutant, mais c'est une erreur stratégique qu'elle a fait. Voilà, et à ce niveau-là, ça paye cash.
Ah oui, donc en plus, elle a été éliminée sur 2 pénalités.
En fait, elle a accumulé 5 pénalités et au bout de 5 pénalités, on est disqualifié de toute façon.
Et ces pénalités, c'est des sorties de terrain.
Oui,
c'est ça ?
Là, elle est sortie du tatami plusieurs fois. Voilà.
Alors, est-ce qu'on peut en dire plus peut-être sur cette épreuve de combat, en fait ? Comment ça marche ?
Ben en fait, l'épreuve de combat, ce sont des combats de 2 minutes ou 3 minutes selon les catégories. Et puis, c'est sur une surface délimitée de 8 sur 8. Voilà, où est-ce qu'on doit marquer des points avec ses pieds ou ses poings. Et l'objectif, c'est de remporter la victoire au bout des 2 minutes ou avant le temps imparti. Et voilà, et donc Eva, il restait que quelques secondes de combat. Et puis, il restait 5-6 secondes de combat. Elle menait 2-0 et puis elle est ressortie. Elle a perdu l'équilibre, en fait. Voilà, en faisant une jambe, elle a perdu l'équilibre. Elle a mis le pied dehors. Et voilà.
Ah oui, donc ça s'est joué à rien, quoi.
Non, ça s'est pas joué à grand chose, mais voilà, malheureusement, à ce haut niveau d'expertise, aucune erreur doit être faite. Voilà, donc là, on apprend de ses erreurs et l'objectif, c'est que ça se reproduise pas.
Mais alors, qu'est-ce qui explique alors cette multiplication d'erreurs comme ça ? C'est un manque de préparation ou c'est un trop grand stress ?
Non, c'est plusieurs. Il peut y avoir plusieurs points, mais voilà, ça a été une mauvaise gestion un petit peu du combat, une mauvaise gestion stratégique. Voilà, il y a eu plusieurs paramètres qui ont été mis en compte, mais voilà, pourtant c'est pas son premier championnat d'Europe, mais voilà, à ce niveau-là, ça pardonne pas.
Parce qu'en tout cas, à quelques jours de la compétition, vous la disiez prête, physiquement et techniquement, comment ça se passe les entraînements avec vous en fait ?
Ben, les entraînements, là, c'est Eva et même tout le groupe sont sportifs, ils sont aménagés, ils sont en sport-études, donc ils sont au lycée sud, au collège ou à la fac, et donc ils ont des aménagements d'horaire toute la semaine, donc on a entraînement tous les jours, du lundi au vendredi, avec des stages le week-end ou pendant les vacances scolaires, donc on a des entraînements. Après, Eva, elle a eu une petite blessure au mois de décembre en stage équipe de France, où est-ce qu'on a bien soigné quand elle est revenue au Mans avec tous nos partenaires, la cryothérapie, le médecin, les kinés. Voilà, donc ça a un petit peu retardé l'échéance, mais c'est pas non plus ce qui a fait la différence au championnat d'Europe. Mais on a eu une préparation, on va dire, correcte, mais pas assez. Voilà, donc faut qu'on... On y trouve toujours un point positif, quoi qu'il arrive. C'est une défaite, mais on a analysé, et puis l'objectif, c'est de ne pas refaire ces erreurs-là à l'avenir. Et de se resélectionner pour les prochaines échéances internationales.
Mais alors, qu'est-ce que vous ressortez de ces analyses ? Si vous l'estimiez prête physiquement et techniquement, où est-ce que ça a pêché, en fait ?
Je pense qu'il y a une partie un petit peu mentale, on va dire. Voilà, peut-être la gestion du stress, la gestion de l'événement. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y avait plusieurs paramètres. Notamment, elle a changé de coach au dernier moment. Voilà, parce que c'est pas moi qui l'a coaché, c'est un entraîneur équipe de France. Et il y a eu un entraîneur équipe de France qui était déjà avec une autre athlète. Et il y a un autre entraîneur qui est arrivé. Ils se connaissaient pas plus que ça. Donc ça peut être un paramètre, mais pas que. Voilà, il y a aussi l'aspect mental. moi, ce que je dis dans la performance, surtout en combat, c'est 70% de la performance étant mentale et le reste, c'est technique, physique.
Et alors, comment Eva Livet prend-elle cette défaite? Est-ce qu'elle arrive à gérer la déception? Parce qu'on imagine que la déception est grande quand on s'entraîne une compétition pareille. C'est sûr qu'on est forcément déçu. Mais est-ce qu'elle arrive quand même à rebondir?
En fait, c'est la force d'un sportif de niveau, hein, c'est ça. On a eu de grosses discussions la semaine d'après quand elle est revenue de Pologne. On a fait un état des lieux, un bilan, et puis de toute façon, quand on est sportif de haut niveau, il faut faire preuve d'abnégation, de résilience. Voilà, des défaites, on en a. On apprend de ses défaites. Voilà, il y en a d'autres athlètes auparavant au Samouraï 2000. Hein. Je citerai notamment Leila Horto, hein, qui a été au JO. Et avant qu'elle fasse championne du monde, elle a perdu plusieurs fois au championnat d'Europe et au championnat du monde. Et puis après, elle a réussi à faire trois fois championne du monde. Donc on apprend de ses erreurs. Et l'objectif, c'est de retourner au travail. Et Eva est une battante, est une guerrière. Donc j'ai pas de doute à ce qu'elle revienne à l'entraînement,
oui.
Et qu'elle remette les bouchées doubles.
Elle a toujours la hargne, ça vous le sentez?
Oh oui, oh oui, elle ne serait pas là sinon. Elle ne serait pas dans le haut niveau si elle n'avait pas la hargne et si elle n'avait pas l'envie.
Et alors sur quels aspects est-ce que vous pensez travailler du coup prochainement?
Les choses un peu simples entre guillemets, mettre les bouchées doubles à l'entraînement, voilà, mettre plus d'exigences, plus d'intention. Il y en avait quand même, mais voilà, pas assez pour ce championnat d'Europe ou championnat du monde. Donc voilà, on apprend, comme je dis, on apprend de ses erreurs. Je suis aussi un jeune entraîneur, moi, au niveau international. Hein, ça fait que 4-5 ans que je suis en tant qu'entraîneur de haut niveau. Donc j'apprends aussi de ces erreurs aussi en tant qu'entraîneur.
Oui, et d'ailleurs on imagine que vous aussi vous devez vous sentir particulièrement impliqué par cette compétition. Comment il fonctionne en fait votre duo à tous les deux?
Il fonctionne, ça fait on va dire 4 ans, 5 ans que je travaille avec Eva. Et puis voilà, il y a eu des hauts, des bas, on apprend à se côtoyer, on apprend aussi à se connaître dans la vie en dehors du karaté. Mais puis la difficulté, c'est de mettre une barrière à l'entraînement. Voilà, on a beaucoup d'estime en chacun, mais à l'entraînement, il faut qu'on soit focus sur la performance. Et voilà, quand on a des choses à dire, on se le dit. Même à 16-17 ans, elle est très mature et on arrive à avancer dans la performance, et comme je dis, on gagne ensemble et on perd ensemble depuis le début. Voilà.
Et alors concrètement, quelles sont les conséquences en fait au niveau des points du classement? Elle pourra quand même de nouveau concourir au prochain championnat d'Europe?
Alors, comme tous les championnats d'Europe, en fait, il y a une sélection au niveau France et il y a des critères de sélection qui sont établis en début de saison, donc là qui vont être établis au mois de septembre. Et donc, il faudra peut-être gagner la Coupe de France, il faudra peut-être gagner le championnat de France, il faudra peut-être gagner certaines compétitions. Là, on repart début avril à une manche de Coupe du Monde, ce qu'on appelle les Youth League. Donc, on repart en Espagne. L'objectif, c'est qu'elle performe pour notamment marquer des points à la ranking list, parce qu'il y a aussi une ranking list mondiale. Et l'objectif, c'est aussi de montrer que en fait, les championnats d'Europe, c'était une erreur. C'était une erreur stratégique et une contre-performance, on va dire. Et l'objectif, c'est qu'elle performe à la Youth League parce qu'elle a le niveau. Mais il faut que ça faut être prêt le jour J.
C'est donc partie remise pour les championnats d'Europe. En revanche, les athlètes du club ont eu de très bons résultats aux championnats de Ligue au Pont de C le week-end du 8 et 9 février. 11 médailles d'or, autant d'argent et de bronze, 4 équipes qualifiées et 36 qualifiés individuels pour les championnats de France. C'est carrément la moisson en fait. Alors, on sait que le Samouraï 2000 est très axé sur la compétition. C'est un bilan satisfaisant pour le club?
Alors, on va dire que c'est un bilan satisfaisant sur le plan comptable. Maintenant, on peut faire bien mieux, hein. Ça c'est sûr, parce que quand on voit 11 médailles d'argent, 11 médailles de bronze, l'objectif c'est d'avoir le plus de médailles d'or, surtout au niveau championnat de ligue. Donc on a des qualifiés, c'est très bien, mais si on veut aller chercher la haute performance et le haut niveau, faut avoir plus de médailles d'or au niveau championnat de ligue. Mais par contre, oui, c'est, on va dire, contrat rempli pour la plupart des athlètes qui feront les championnats de France. Donc ça c'est vraiment très important. Et puis on a un vivier au Samouraï 2000, mais on peut toujours faire mieux. L'objectif, c'est de travailler chez la plus jeune génération, de former, parce que c'est aussi notre identité au Samouraï 2000, c'est qu'on forme, notamment Eva, hein, qui est issue du Samouraï 2000, qui a commencé à l'âge de 5 ans. Et voilà, l'objectif, c'est de sortir des athlètes issus du Samouraï 2000 avec notre formation.
Et alors, racontez-nous un peu comment ça s'est passé, ces championnats de ligue. Combien d'athlètes étaient présents, en fait?
Eh bien, on va dire, je crois, une vingtaine dans ces eaux-là, et sachant qu'il y en a plusieurs qui concouraient dans deux catégories. En fait, ils étaient en surclassé. Donc, par exemple, il y a certains jeunes qui étaient dans la catégorie U16 et ils ont concouru dans la catégorie U18 et ils ont réussi à sélectionner quand même en étant surclassé. Donc, il y en a certains qui ont été sélectionnés dans les deux catégories au championnat de France cadet et au championnat de France junior.
Voilà. Et justement, dans les qualifiés au championnat de France, est-ce qu'il y a des athlètes qui sont un peu des têtes de liste que vous suivez particulièrement ?
Bah, au centre de formation, oui, on en a plusieurs. Hein. En plus de Eva, il y a Louane Moscou, qui est une jeune athlète en devenir, Hermione Kerner, Kevin Blanc, Julien, Fuentes Munoz, et il y a Thomas P. Martin qui est... voilà, on est 15, entre 15 et 18 athlètes du centre de formation qui peuvent prétendre à un podium au niveau national. Ça, c'est sûr. Ils l'ont déjà prouvé. Mais maintenant, bah, on a des stages. Là, on était en stage la semaine dernière. Et puis, on reprend les entraînements qui vont commencer dès la semaine prochaine. Là, ils sont un petit peu en pause. Et on reprend les entraînements en même temps que l'école.
Alors, en fait, si on détaille bien le bilan qu'on a expliqué tout à l'heure, tous vos athlètes présents sur ce championnat ont reçu une médaille, en fait.
Alors, je ne sais plus exactement, mais oui, au moins, oui, tout à fait. Au moins dans une des catégories, ça c'est sûr, ils ont tous au moins eu une médaille au niveau championnat régional.
Qu'est-ce qui explique ce succès des sportifs du Samouraï 2000 ?
J'ai envie de dire, voilà, c'est l'identité du Samouraï 2000 depuis 40 ans. Hein, le Samouraï 2000 a 40 ans cette année. Et donc, c'est notre façon de travailler, notre façon de faire, notre façon de former. Où est-ce qu'on commence dès le plus jeune âge? Et puis, on a un système de formation et un système de travail qui fait que ça performe. Mais on doit toujours se remettre en question. C'est ça aussi l'objectif, parce que même
c'est si pas on... se reposer sur ses lauriers.
Non, surtout pas, parce que on le voit, on peut avoir des contre-performances, donc c'est pas parce qu'on performe que c'est acquis. C'est ça le sport et la compétition en particulier. Donc voilà, on se remet surtout en question, et puis on a une équipe compétente au Samouraï 2000, même des anciens hein, qui nous sortent de notre zone de confort et qui nous font remettre en question pour être encore meilleurs demain.
Alors maintenant, l'objectif, ce sera donc les championnats de France. C'est quand ? Et vous êtes confiant pour cette prochaine compétition ?
Confiance, c'est un bien grand mot, parce que le championnat de France, c'est toujours particulier. Et les autres aussi ont un très bon niveau. Maintenant, oui, on espère glaner des titres, glaner des podiums. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a les quatre équipes qualifiées. Donc ça aussi, on a des jeunes équipes. Mais c'est aussi l'objectif de performer en équipe, parce qu'on n'est pas que des individuels, on est des équipes. Et l'objectif, c'est de monter sur le podium en équipe. Et puis voilà, ça va commencer, les championnats de France vont commencer fin mars, début mars, le 8-9 mars par les championnats de France Espoir, fin mars les championnats de France Senior, et puis au mois d'avril il y a tous les championnats de France Minimes, Cadet, Junior, jusqu'au mois de mai, voilà, selon les week-ends.
Je vous remercie Dimitri Degnaud, coordinateur adjoint au Samouraï 2000, et on souhaite bon courage au karatéka du Samouraï 2000, particulièrement à Eva Livet, qu'elle revienne plus forte de sa défaite. Merci beaucoup.
Merci à vous.
On se retrouve dans quelques instants après une pause musicale, et tout de suite on écoute The Black Keys, White Child.
Come close now, let me tell you a lie. Tender heart and a beautiful smile, but things are worse.
Radio Alpa, l'alternative.
Vous êtes toujours dans Sport en Sarthe et on passe à présent à notre deuxième sujet du jour. Quand vous assistez à un match de foot, de basket ou bien encore de handball, vous entendez sa voix dans les mégaphones du stade. C'est grâce à lui que vous pouvez suivre ce qui se passe sur ce gigantesque terrain avec ses tout petits joueurs qui courent. C'est grâce à lui que tout le monde se lève dans les gratins. Bref, c'est lui qui met l'ambiance. C'est le speaker. Et aujourd'hui, nous accueillons un jeune qui s'est découvert cette vocation. Bonjour Théo Langlais.
Bonjour.
Alors actuellement, tu es maître nageur, c'est bien ça?
Oui, c'est ça, oui, effectivement.
Et alors quel a été ton parcours d'études?
Un parcours en toute somme classique, j'ai envie de dire. Voilà. Au-delà du lycée, du bac, je suis passé sur des études en sport, donc en STAPS pour ceux qui connaissent, que j'ai étudié au Mans, que j'ai terminé sur Nantes, à la suite duquel j'ai obtenu mon diplôme de maître nageur et avec lequel je travaille aujourd'hui.
Donc tu fréquentes donc depuis un moment le milieu sportif, mais c'est au cours d'un match de handball à la Bazoge que tu t'es découvert une vocation de speaker. Alors est-ce que tu peux nous raconter?
Ouais, carrément. Eh bien, donc effectivement, j'ai eu un passé plus ou moins sportif, que ce soit dans les études, personnelles, etc. Et j'ai repris le handball il y a quelques années dans mon club originaire donc de la Bazoge, qui se situe à 10 minutes en voiture du Mans. Dans le cadre d'une journée qui s'appelle le Women's Day, c'est la Fédération française de handball qui impose cette journée, chaque club doit présenter un événement de manière à mettre en lumière le handball féminin. Chose qu'a très bien fait notre club, donc de la Bazoge, et en particulier Théo Béquin, que je salue ce soir et que je remercie. C'est lui qui a organisé une très grosse partie de cet événement. Et donc cet événement consistait à avoir des animations toute la journée pour les jeunes joueuses et le soir recevoir quatre équipes, donc deux équipes semi-professionnelles qui jouent au quatrième échelon national, donc de la Nationale 2, et deux équipes professionnelles, une qui joue en Division 2, qui est le deuxième échelon, et une qui joue en National 1, qui est le troisième échelon, donc deux équipes professionnelles. Et donc mon ami Théo m'a proposé à un mois de l'événement de pouvoir speaker, de pouvoir faire l'entrée des joueuses, des partenaires, etc., de pouvoir animer un petit peu cette soirée, et chose que j'ai tout de suite acceptée, parce que c'est... Voilà, je me suis dit que ça allait être une superbe expérience.
Ça ne t'a pas effrayé?
Non, pas plus que ça. J'ai l'habitude, alors à la fois du fait de mon métier, d'être devant du monde, devant du public, d'animer certaines séances. Et dans le passé, j'ai également eu l'occasion de pouvoir animer des soirées de mariage, d'anniversaire, etc. Donc voilà, le fait de se retrouver face au public, ça n'a pas été plus dérangeant que ça.
D'accord, donc c'était ta première expérience de speaker sportif, mais tu avais déjà fait de l'animation dans d'autres contextes.
C'est ça, oui.
Alors le sport et l'animation, ce sont donc en fait tes deux moteurs ?
Deux moteurs, alors il y en a toujours un petit peu plus, mais ce sont les deux principaux. L'animation, ça fait à la fois partie de mon quotidien avec mon métier. C'est également moi ce que j'aime. J'adore animer, j'adore partager plein de choses, que ce soit avec mes proches, avec du public. Et le sport, ça définit une grosse partie de ma vie également. Donc oui, on peut dire que ce sont deux gros leviers.
Et avant donc ce match à la Bazoge, tu avais déjà eu d'autres expériences professionnelles dans le milieu sportif ?
Alors dans le milieu sportif, oui, effectivement, j'ai déjà eu une expérience notamment au sein du club professionnel du Mans FC, dans tout ce qui est secteur communication et événementiel sportif, donc sur la communication, l'aspect presse également lors des matchs, avant, après match, et tout ce qui était lié à l'organisation de l'événement des matchs, donc notamment anciennement le MM Arena. Des expériences qui ont pu m'être utiles.
Et donc durant la journée, journée du match à la Bazoge où tu as fait le speaker pour le match du Woman Day, tu as été repéré pour ta performance.
Ouais, c'est ça, chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout. De base, je faisais pas ça pour ça, je faisais ça pour le plaisir, pour aider mon club, voilà, pour que tout se passe bien. Et peut-être était-ce le destin, mais lors de ma prestation, il y avait le président du club Fleury-Loiret Handball, qui est un très gros club de handball féminin, qui était présent sur le banc, dans les tribunes, et en discutant avec en fin de match, il a gentiment pris mon numéro de téléphone et m'a recontacté par la suite pour que je puisse aller speaker chez eux à côté d'Orléans.
C'est un coup de chance incroyable, donc t'as pas hésité là pour le coup.
Non, pas du tout. Sur le moment, j'étais un petit peu surpris que ça m'arrive à moi, que cette demande me soit faite. Mais non, c'est une chose, on va dire, c'est une chance, une surprise un petit peu soudaine que je n'ai pas hésité à saisir et grâce à laquelle j'en suis là aujourd'hui.
Donc tu as pu speaker, si je puis dire, sur des matchs professionnels alors.
Alors c'est ça. Alors c'était un match semi-professionnel parce que donc le club de Fleury-Loiret Handball, bien qu'il fût au plus haut niveau national il y a quelques années, est malheureusement descendu au troisième échelon national, donc en National 1. Donc on reste dans la catégorie semi-professionnelle encore. Le domaine professionnel arrive un échelon plus tard en division 2. Donc effectivement, je me suis rendu chez eux et j'ai pu speaker, donc à la fois que ce soit l'annonce des joueuses, les débriefs d'avant-match, d'après-match, éventuellement, et même d'ailleurs ça a été le cas, tout ce qui était ambiance du public, les réactions à chaud des joueuses, du coach, avec les partenaires à la fin. Et donc j'ai pu me rendre là-bas pour vivre cette immense chance.
Qu'est-ce que ça t'apporte ces expériences?
Plusieurs choses. La première, je dirais que ça m'apporte à la fois une satisfaction, parce que ce que je recherche avant tout dedans, c'est non pas me montrer, mais c'est surtout pouvoir être en communion avec le public, être en communion avec les joueurs, avec le staff, avec l'enceinte sportive en elle-même. C'est voilà, c'est vraiment quelque chose qui me hype. Voilà, c'est le fait de pouvoir vivre des moments comme ça, de pouvoir être en communion avec le public, leur faire les faire crier, les faire rire, ou parfois lors des défaites, voilà, il y a des pleurs, mais les faire pleurer, ça fait partie du job. Mais voilà, faut savoir rester neutre, et c'est une expérience que forcément je souhaite revivre.
La communion avec le public, c'est ça pour toi l'essence du métier de speaker?
Ouais, carrément. Alors il y a à la fois ça et à la fois le fait de pouvoir suivre les matchs, de pouvoir les commenter également en temps réel. Alors même si on n'est pas du tout sur du commentateur sportif, on est vraiment sur du speaker, de l'ambiance de salle. Mais ouais, toute cette communion qu'on peut avoir avec le public, les sentiments et toute cette ferveur qu'on peut ressentir, ne serait-ce que quand il y a un but qui est marqué ou quand l'équipe l'emporte, c'est absolument phénoménal.
Donc en gros, le speaker, c'est un mélange entre un showman et un commentateur, c'est ça? Est-ce qu'il y a un aspect qui te semble plus important, qui l'emporte sur les deux?
Non, j'aurais tendance à dire qu'il y a un petit peu des deux. J'aurais tendance à dire 50%. Il faut pouvoir accepter, entre guillemets, de faire showman. Alors, même si c'est pas forcément le terme que j'aurais employé, mais il faut pouvoir accepter de le faire, parce que voilà, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir être sur le parquet, de pouvoir s'adresser à des centaines, des milliers de spectateurs. Voilà, c'est, il faut pouvoir se mettre en avant, mais à travers le match, à travers les joueuses et à travers justement ce qui se passe sur le parquet. Et puis à côté de ça, oui, il y a une dimension de commentateur sportif où on annonce les joueuses, les buteuses, où après, sur la fin de match, il y a quelques minutes qui sont réservées sur des débriefings, sur des interviews avec les coachs, etc. Donc oui, c'est, voilà, je dirais que c'est du 50-50.
Là où je trouve ça très impressionnant comme métier, c'est que l'improvisation, elle est au cœur du métier. Ça peut être effrayant pour beaucoup. Toi, t'es à l'aise avec ça? Parce qu'il faut improviser en même temps de suivre le match, ça, c'est pas évident.
Alors, il y a une grosse part d'improvisation. Alors, malgré le fait qu'au début du match, on ait toutes nos fiches, que ce soit sur les joueuses, les différents résultats que l'équipe a pu avoir, les différentes rencontres, les prochaines rencontres, on a déjà, on fait le job un petit peu en amont et on prépare tout ça.
Ah oui, il faut les bosser un peu, les fiches en amont. On n'arrive pas comme ça.
Bah c'est mieux, si on veut faire bonne impression, c'est mieux d'arriver avec un travail qui est déjà fait.
On lui laisse prendre une gorgée d'eau. Mais il n'y a pas des moments quand même où t'es à sec, justement là, oui, effectivement, t'es à sec.
Sec, oui.
Mais à sec d'imagination, je veux dire, où tu ne sais plus quoi raconter. Comment tu meubles, en fait, en tant que speaker?
Alors, c'est pas une question de meubler. Moi, j'estime pas ça être du meublage. Pour moi, si tu fais bien ton boulot, t'as pas besoin de meubler. C'est-à-dire que tu trouves toujours des choses à dire qui sont cohérentes avec le déroulé du match, avec la forme des joueuses, la forme des équipes. Quand il y a un blanc, tu peux parler à la fois des résultats d'équipe, tu peux parler des blessures chez les joueuses. Il y a vraiment plein de choses sur lesquelles on peut ressortir. Maintenant, voilà, il y a quand même une grosse part d'improvisation, mais l'improvisation, ça m'a jamais réellement fait peur. Je pense que la première chose qu'il faut se dire pour aller sur cette voie-là, sur la voie de speaker, c'est qu'il ne faut pas craindre l'incertitude. C'est-à-dire que faut pas craindre l'incertitude, tu y vas, tu fais ce que tu as à faire. Si ça se passe bien, tant mieux. Si ça se passe pas bien, c'est pas grave, tu feras mieux la prochaine fois. Mais voilà, faut pas avoir peur, faut y aller, faut se lancer.
C'est un métier d'aventurier, en fait. Alors, pour l'instant, tu n'as commenté que des matchs de handball. Est-ce que tu voudrais commenter d'autres sports?
Alors oui, pour l'instant, j'ai fait que des matchs de hand. Après, effectivement, en fonction des opportunités qui se présenteront, bien sûr, avec plaisir, je pourrais aller sur d'autres sports, que ce soit collectif, même des tournois individuels. Ce serait un immense plaisir. Comme on en parlait juste avant, mon passé sportif, mes diplômes, etc., me permettent d'avoir cette pluralité de sports, alors que ce soit des sports individuels, de raquettes, par équipe, etc. Voilà, c'est vraiment une grande force et ce serait avec plaisir que je pourrais aller sur d'autres sports.
Alors cependant, il n'y a pas de diplôme de speaker. En fait, à part multiplier les expériences, tu ne peux pas faire autrement pour monter en grade, j'ai envie de dire.
Alors exactement, c'est-à-dire que c'est un monde relativement fermé. Il faut savoir prendre l'expérience quand tu peux la prendre. Et ensuite, il faut essayer de... j'allais dire de se vendre, mais c'est pas ça. Il faut essayer plus de se faire remarquer. C'est plus dans ce sens-là, de manière à pouvoir être contacté ou même pouvoir démarcher des clubs toujours plus gros, qui suscitent toujours plus d'envie, toujours plus de vision, de spectateurs et plus de show sur le terrain.
Et alors justement, est-ce qu'il y a un prochain match où on pourra t'entendre? Est-ce que tu as déjà une date de prévu?
Alors, il n'y a pas de date de prévu actuellement. Je suis toujours en conversation avec le président du Fleury Loiret Handball pour voir si, à tout hasard, la saison prochaine ou prochainement, il pourrait y avoir une entente entre ce club et moi de manière à pérenniser mes interventions auprès de leur club. Et pourquoi pas se rapprocher un petit peu du Mans et pourquoi pas trouver des clubs en Sarthe.
Merci beaucoup Théo Langlais, aspirant speaker, et bon courage pour la suite.
Merci beaucoup.
Radio Alpa, l'alternative.
C'est la fin de cet épisode de Sport en Sarthe. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur radioalpa.com dans les infos de la rédaction. Sport en Sarthe revient vendredi 28 février et d'ici là, on se retrouve lundi 24 pour un nouvel épisode de C'est d'Actu et ce sera sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans, bien évidemment.